Cette année, d'un commun accord avec Jean-Jacques Rosa, nous avons choisi de consacrer ce séminaire à un thème qui a été intitulé « Usage de Wittgenstein ». Usage de Wittgenstein plutôt que les usages de Wittgenstein, parce qu'il y en a trop. Alors, par usage de Wittgenstein, donc, il faut entendre aussi bien les usages philosophiques que les usages extra-philosophiques, qui sont extrêmement nombreux et variés, et d'un intérêt qui peut être très inégal. Je n'en dis pas plus pour le moment sur ce sujet. Il revient, comme de juste à Jean-Jacques Rosa, d'inaugurer cette série. Je dis comme de juste, étant donné d'abord tout le travail considérable qu'il a effectué sur Wittgenstein, et d'autre part tout ce qu'il a fait pour faire fonctionner convenablement ce séminaire. Alors, le problème dont il va parler aujourd'hui est celui des concepts phénoménaux, qui est un thème qui vous déconcerte peut-être un peu, parce que certains d'entre vous se demandent probablement ce qu'il faut entendre exactement par concepts phénoménaux et pourquoi il s'agit d'une chose qui est si importante pour comprendre l'œuvre de Wittgenstein. Alors, je ne vais pas essayer de... Bon, je ne présente pas, ça va sans dire, Jean-Jacques Rosa, qui est maître de conférence au Collège de France, que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'entendre. Je ne le présente pas, je vais lui laisser le soin de vous indiquer avec précision ce qu'il faut entendre exactement par les concepts phénoménaux et pourquoi ce thème des concepts phénoménaux est devenu particulièrement important pour la compréhension de Wittgenstein. Mon cher ami, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Alors, bien qu'il inaugure ce séminaire, l'exposé que je vous présente ce soir sera assez différent de ceux qui suivront. Ceux-ci traiteront des usages effectifs de Wittgenstein par tel auteur ou dans tel domaine, comme vous pouvez le voir par le programme qui vous a été distribué, comment Russell, Kripke, Thomas Bernhardt et d'autres, ou encore la philosophie de la religion, l'anthropologie, ont utilisé ou utilisent Wittgenstein pour aborder des problèmes qui sont les leurs. C'est un peu l'objectif de ce séminaire. L'objet de mon propre exposé ne sera pas l'usage effectif de Wittgenstein par les philosophes qui s'intéressent au problème des concepts phénoménaux, usage qui est plutôt rare, pour ne pas dire quasi inexistant, mais ce que je pourrais appeler son usage potentiel. Autrement dit, ce que je voudrais montrer, ou commencer à montrer, c'est comment la philosophie de la conscience contemporaine pourrait peut-être tirer parti des idées de Wittgenstein pour aborder les problèmes qui sont les siens. Alors, le débat sur les concepts phénoménaux, rassurez-vous, je vais expliquer dans un instant, même assez longuement, de quoi il s'agit, a été ouvert par Brian Lore. Vous avez toute une bibliographie sur la feuille qui vous a été distribuée. Par Brian Lore, dans un article intitulé « Phenomenal States », dont la première publication date de 1990, c'est la version définitive de 1997. Depuis, les articles se sont multipliés de manière exponentielle, mais aucun, à ma connaissance, n'a été traduit en français, et je ne connais par ailleurs aucun exposé en français sur cette question. Donc je serai amené ce soir à exposer longuement, peut-être trop longuement, les termes et les enjeux de ce débat, de sorte que je ne pourrai offrir ici que quelques indications in fine, quelques pistes sur ce que pourrait être un usage de Wittgenstein dans ce domaine. Disons que Wittgenstein sera un petit peu l'arlésienne, toujours à l'horizon, mais jamais directement présent, jamais directement cité. Alors, le besoin d'utiliser Wittgenstein, ou tout au moins une démarche de type wittgensteinien, quand il s'agit de la conscience, ou plus précisément de la conscience phénoménale, a été clairement reconnu par l'un au moins des participants au débat, David Papineau, dans les premières pages de son livre, qui est un des meilleurs sur le sujet, Thinking About Consciousness, 2002. Après s'être posé en défenseur d'une conception théorique, donc non wittgensteinienne de la philosophie, c'est-à-dire d'une conception selon laquelle, je cite, « presque tous les problèmes philosophiques importants sont occasionnés par des tensions réelles dans nos théories générales sur le monde et requièrent donc pour leur solution des avancées théoriques substantielles et non un simple arrangement conceptuel », Papineau déclare qu'il faut faire une exception pour la philosophie de la conscience. Je cite, « toutefois, quand on en arrive au thème particulier de la conscience, je pense que Wittgenstein avait raison. Ici, nos problèmes ne sont pas tant théoriques que conceptuels. La difficulté n'est pas que nos théories d'ensemble formulent des affirmations incompatibles sur la conscience, elle est plutôt que nous nous retrouvons embrouillés avant même d'avoir commencé à théoriser. Nous sommes désorientés par les traits superficiels de notre pensée, exactement comme se le représentait Wittgenstein. Cela a lieu parce que, pour penser sur la conscience, nous avons un ensemble spécifique de concepts et que la structure de ces concepts peut facilement nous égarer. Pour résoudre nos difficultés philosophiques, il nous faut en premier lieu comprendre cette structure conceptuelle spécifique. Pour faire des progrès concernant la conscience, nous avons besoin non de théorie, mais d'une thérapie. Fin de citation. Alors, pour comprendre cette remarque, il faut avoir un peu à l'esprit la situation de problème à laquelle se trouve confrontée une certaine famille de philosophes de la conscience contemporains, ceux qui s'appellent eux-mêmes parfois des matérialistes inflationnistes, que Chalmers a appelé les matérialistes de type B, et qui sont en gros, très schématiquement, les matérialistes non-éliminativistes. Concernant l'esprit en général et la conscience en particulier, Papineau défend, comme beaucoup d'autres, un programme de recherche métaphysique matérialiste. Il soutient que les états conscients sont identiques ou bien à des états physiques ou bien à des états fonctionnels réalisés physiquement. Or, ce programme se heurte depuis les années 80 à une série d'arguments qui visent à montrer que, quand bien même on arriverait à rendre compte en termes physiques ou fonctionnels des états intentionnels comme les pensées, les croyances, les intentions, qui n'ont pas de qualité phénoménale spécifique, il n'y a pas de « what it is like », d'effet que ça fait spécifique d'avoir telle croyance ou telle intention, il est vain d'espérer pouvoir rendre compte en termes physiques ou fonctionnels de la conscience phénoménale, c'est-à-dire des expériences vécues qui, comme les sensations visuelles ou auditives, ou encore les sensations de douleur ou les émotions, ne sont pas séparables de leur qualité phénoménale et sont même identifiées par nous en première personne grâce à elles. L'objection consiste à dire que l'effet que ça fait ou le comment c'est d'avoir la sensation de rouge ou d'avoir mal aux dents ne peuvent être ni décrits ni expliqués en termes d'état physique ou fonctionnel dans un langage en troisième personne. Alors, un des arguments majeurs des antimatérialistes est ce qu'on a appelé l'argument de la connaissance. Il était proposé par Frank Jackson, et c'est un argument qui est appuyé sur une expérience de pensée désormais archi-célèbre qu'on retrouve partout. C'est l'histoire de Marie, qui sait tout sur la physique des couleurs et sur la physiologie de la perception des couleurs, mais qui a vécu toute sa vie depuis sa naissance dans un monde en noir et blanc, et qui par conséquent ignore comment c'est ou quel effet ça fait, what it is like, de voir du rouge. Quand pour la première fois elle sort du monde noir et blanc où elle a été enfermée et quand elle voit une tomate mûre, elle vit une expérience inédite et acquiert du même coup, nous dit l'argument, une connaissance nouvelle. Elle apprend comment c'est pour elle de voir du rouge. Il y a donc au moins une connaissance qu'aucun savoir physique ou dérivé de la physique ne peut contenir, la connaissance des qualités phénoménales en première personne. Donc, le matérialisme, dit l'argument, est faux. Alors, différentes stratégies matérialistes ont été mises en place pour répondre à cet argument. Celle de Papineau, que j'ai évoquée à l'instant, et des matérialistes inflationnistes, peut être résumée par la formule suivante, monisme ontologique, dualisme conceptuel. Papineau l'expose de la façon suivante. La clé, je cite, « La clé est de reconnaître que, bien que les états mentaux soient matériels au niveau ontologique, nous avons deux manières différentes de penser à ces états au niveau conceptuel. Nous pouvons certes penser à eux comme à des états matériels, mais nous pouvons aussi penser à eux comme à des sensations en utilisant des concepts phénoménaux spécifiques. » Par une analyse attentive du fonctionnement de ces concepts phénoménaux, je suis en mesure d'expliquer pourquoi il doit nous sembler évident que les états conscients sont distincts des états matériels, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc cette stratégie, qui a été baptisée depuis la stratégie des concepts phénoménaux, ne repose pas sur une élaboration théorique, mais bel et bien sur une analyse conceptuelle. Les matérialistes de type inflationnistes, donc les matérialistes qui adoptent cette stratégie, doivent définir les concepts phénoménaux de manière à ce qu'ils puissent remplir une triple tâche. Premièrement, les concepts phénoménaux doivent être les concepts spécifiques grâce auxquels nous avons une connaissance de nos expériences vécues en première personne. Lorsque Marie est mise pour la première fois en présence d'une tomate mûre et qu'elle s'écrie « Ah, voir du rouge, c'est ça » ou « Ah, voir du rouge, c'est comme ça », le « ça » de cet énoncé exprime son concept phénoménal de rouge, un concept qu'elle ne pouvait pas acquérir avant d'avoir fait l'expérience du rouge. Selon l'interprétation acceptée par ces philosophes, il y a évidemment d'autres interprétations de cette fameuse expérience de pensée, mais je laisse ça de côté, c'est un concept à part entière puisqu'il lui permet de concevoir des pensées qu'elle ne pouvait pas former auparavant. Par exemple, la pensée « j'éprouverai sans doute ça, la même expérience de couleur, quand je verrai une rose, mais pas quand je verrai un sapin ». Deuxièmement, les concepts phénoménaux doivent être tels qu'en les acquérant, Marie ne découvre pas des propriétés nouvelles, mais une nouvelle manière de penser à ces mêmes propriétés qu'elle connaissait déjà en tant que physicienne et physiologiste omnisciente. Comme l'écrit Chalmers, exposant les idées des matérialistes inflationnistes, Chalmers est lui-même un dualiste, un antimatérialiste, mais ici il expose très clairement les idées des matérialistes adoptant la stratégie des concepts phénoménaux. Selon cette conception, Marie ignore certaines vérités fondamentales tant qu'elle est enfermée, mais ces vérités toutefois concernent une réalité physique sous-jacente. Quand elle quitte la pièce où elle est enfermée, elle apprend des faits anciens d'une nouvelle manière. Troisièmement, la nature et le fonctionnement de ces concepts phénoménaux doivent être tels qu'ils expliquent pourquoi nous avons l'intuition presque indéracinable qu'il y a une différence radicale ou même un fossé, un gap, entre les états conscients et les états physiques. Cette intuition, Papineau l'appelle « intuition de la distinction », on pourrait même presque traduire « intuition de l'hétérogénéité » ou de l'incommensurabilité entre le matériel et le mental, ou entre le physique et le psychique. Cette intuition, donc, elle est à ses yeux illusoire, puisque pour Papineau, les sensations sont des états cérébraux, il est matérialiste. Mais son existence, sa prégnance, est un fait fondamental qu'une bonne théorie matérialiste doit expliquer, dont elle doit rendre compte. Alors, comme on le voit, nous avons ici le cas remarquable de philosophes contemporains qui, pour les besoins de leur propre programme métaphysique, matérialiste, adoptent une démarche qui ressemble à certains égards à celle de Wittgenstein. Premièrement, ils constatent l'existence d'un problème métaphysique récurrent, lequel est engendré par une certaine intuition qui se présente à nous comme inévitable. Deuxièmement, ils estiment que cette intuition ne résulte pas de la nature des choses, mais seulement du fonctionnement de notre langage, ou d'une partie de notre langage, et de la mauvaise compréhension que nous en avons. Troisièmement, ils se proposent de mener une analyse purement conceptuelle, au moyen de laquelle ils espèrent pouvoir expliquer l'intuition en question et résoudre ainsi le problème, ou plutôt, pour employer un terme wittgensteinien, le dissoudre. Alors, bien entendu, cette utilisation de l'analyse conceptuelle est conjoncturelle, elle est au service d'un programme et d'une thèse métaphysique, mais on a ici le cas de métaphysiciens qui essaient, temporairement au moins, de se faire un peu wittgensteinien. Alors, quels sont les termes du problème à partir de là? À quelles conditions un concept peut-il être dit phénoménal? J'en retiendrai trois qui sont reconnus, me semble-t-il, par à peu près tous les auteurs, que ceux-ci soient matérialistes, comme Papineau, ou qu'ils soient antimatérialistes, c'est-à-dire qu'ils viennent expliquer que les concepts phénoménaux ne réfèrent pas à des propriétés matérielles, mais réfèrent exclusivement à des propriétés mentales, des propriétés non physiques, c'est-à-dire à des défenseurs de la conception selon laquelle le dualisme des concepts renvoie à un dualisme des propriétés. Condition 1, mais je ne m'étendrai pas sur elle, un concept phénoménal doit être un concept en première personne. Ça, c'est assez simple. Condition 2, c'est que pour avoir un concept phénoménal, il faut avoir eu, et il suffit d'avoir eu, l'expérience correspondante. Pour avoir le concept phénoménal de rouge, il faut que Marie sorte de la pièce noir-blanc et perçoive un objet rouge. Et il suffit qu'elle vive cette expérience de voir du rouge pour qu'elle sache par là même comment c'est de voir du rouge et acquiert le concept de rouge en question. Alors cette condition est une condition qu'on peut appeler étiologique, hein, qui concerne le mode d'acquisition du concept. Mais certains auteurs y ajoutent une condition plus exigeante que j'appellerais 2 bis, qui serait une condition d'application. Ils considèrent que pour disposer du concept de rouge phénoménal, c'est-à-dire pour pouvoir l'appliquer dans de nouvelles circonstances, Marie doit chaque fois pouvoir réactiver l'expérience, soit par la perception, si elle est dans une nouvelle circonstance où elle est face à du rouge, soit par l'imagination, si en l'absence de la perception d'un objet rouge, elle pense à l'expérience de la sensation rouge, par l'imagination. Cette condition 2 bis s'énoncerait donc, pour appliquer un concept phénoménal, il faut pouvoir vivre ou revivre sous une certaine forme l'expérience correspondante. Mais à mon avis, c'est la troisième condition qui est la plus décisive. Elle n'a pas vraiment de nom dans la littérature, et je l'appellerais, si vous voulez, la condition d'isolation ou de pureté phénoménale du concept. Le concept phénoménal C doit saisir la sensation S en tant seulement que celle-ci est sentie et telle qu'elle est sentie, mais indépendamment de toute relation causale, intentionnelle ou expressive dans laquelle cette sensation peut entrer. Autrement dit, peu importe que cette sensation soit causée par tel ou tel objet, ou qu'elle engendre de ma part tel ou tel comportement, peu importe que cette sensation soit liée à la représentation dans la perception ou dans l'imagination de tel ou tel objet, peu importe qu'elle s'exprime par telle ou telle expression corporelle ou verbale, mon concept phénoménal de rouge doit saisir mon expérience selon la qualité phénoménale qui lui est propre, saisir comment c'est pour moi de voir du rouge, saisir le « what it is like » de ma sensation de rouge, et il doit saisir cela intégralement, dans toute sa richesse qualitative, si on peut dire, mais il doit aussi et surtout la saisir exclusivement, c'est-à-dire indépendamment de toute relation à quoi que ce soit d'autre, et notamment de toute relation à un concept non phénoménal. Alors cette troisième condition, qui d'une certaine manière englobe les deux autres, est à mes yeux la condition décisive. Mais comme vous l'aurez sans doute remarqué, elle place celui qui veut former un concept phénoménal dans une situation qui ressemble à bien des égards à celle dans laquelle se trouve le locuteur d'un langage privé tel que Wittgenstein le met en scène dans les recherches philosophiques. Alors à ces trois conditions communes à toutes les théories des concepts phénoménaux s'ajoutent évidemment pour les théories matérialistes deux contraintes supplémentaires. Un, les concepts phénoménaux doivent dénoter des propriétés physiques, contrainte matérialiste. Deux, la contrainte d'expliquer l'intuition de la distinction entre le physique et le mental. Ça fait beaucoup de conditions. Alors comme on va le voir, les diverses théories des concepts phénoménaux qui ont été élaborées depuis une quinzaine d'années divergent fortement, et elles s'opposent sur bien des points, mais il y a une thèse qu'elles partagent pratiquement toutes, je dis pratiquement toutes, il y a quelques exceptions, mais que je laisserai de côté ce soir, elles partagent pratiquement toutes la thèse de la référence directe des concepts phénoménaux. Les concepts phénoménaux réfèrent directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En première approximation, de manière très grossière, on peut dire qu'une référence est directe si elle s'effectue sans l'intermédiaire d'une description. Par exemple, les expressions « la capitale de la France » ou « la ville de France qui a le plus grand nombre d'habitants » réfèrent à Paris via la description d'une de ses propriétés. En revanche, le nom « Paris » réfère à Paris directement. Donc le modèle de la référence directe, si vous voulez, en gros, c'est la désignation au moyen d'un nom propre. Alors, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la signification de la thèse de la référence directe des concepts phénoménaux, on peut utiliser la théorie des désignateurs rigides qui a été développée par Kripke dans la logique des noms propres. Théorie qui est d'ailleurs adoptée, en gros, par la quasi-totalité des théoriciens des concepts phénoménaux. C'est à l'intérieur du cadre de cette théorie, en général, que le débat se développe. Selon cette théorie, il faut soigneusement distinguer la référence, la relation de référence elle-même, c'est-à-dire la relation entre le concept et ce qu'il désigne, relation qui, selon cette théorie, est donc directe, sans intermédiaire d'une description, et qui, une fois qu'elle est fixée, est immuable, rigide. Donc, distinguer cette référence elle-même et le mode de fixation de la référence, fixation pour laquelle une description peut être utilisée. Prenons un exemple. Le terme « eau » désigne de manière rigide H2O. Certes, on n'a pas toujours su que l'eau est H2O. On a d'abord fixé la référence du terme « eau » en servant de la description de certaines propriétés de l'eau, liquide incolore, inodore et sans saveur. Mais même à cette époque, où personne ne savait que l'eau est H2O, eau désignait déjà H2O. Et si on trouvait sur une terre jumelle un liquide dont les apparences seraient en tout point semblables à celles de l'eau, il serait lui aussi incolore, inodore, sans saveur, mais dont la composition chimique serait tout autre que H2O, XYZ, ce liquide ne serait pas de l'eau. Alors, je ne veux pas discuter ici la valeur de cette théorie, qui est une théorie de la référence directe et qui a fait couler des tonnes ou des tombereaux d'encre. Ce qui m'importe, c'est qu'elle permet de mettre facilement en lumière le fait suivant. Dans le cas des concepts phénoménaux, s'ils existent, la référence ne peut pas être fixée à l'aide de la description d'une propriété autre que celle à laquelle réfère précisément le concept. J'explique. Si j'éprouve une certaine sensation de douleur, ou si j'ai une certaine sensation de rouge, penser phénoménalement à cette sensation, c'est y penser selon la qualité phénoménale propre qu'elle a pour moi. Et si pour fixer la référence du concept phénoménal C de F, d'une propriété F, on avait recours à la description intermédiaire d'une propriété G, de deux choses l'une, ou bien cette propriété G serait non phénoménale, et le concept ne le serait pas non plus, ou bien la propriété G serait phénoménale, mais alors on n'aurait plus affaire au concept C de F, mais à un autre concept, le concept C de G. Donc on pourrait exprimer, et certains auteurs le font, la conclusion de cette analyse en disant que les concepts phénoménaux sont des désignateurs super rigides ou qu'ils ont une relation, si on peut dire, super directe avec leur référent. Alors on aura remarqué que cette idée découle directement et inévitablement, me semble-t-il, de la condition 3. Enfin, de ce que j'ai appelé la condition 3, la condition d'isolation ou de pureté phénoménale. En vertu de cette condition, un concept phénoménal ne peut contenir ni plus, ni moins, ni autre chose que la qualité qu'il désigne. Donc dire que les concepts phénoménaux réfèrent directement, c'est, dans ce cas précis, dire que leur sens ou leur contenu est fourni exclusivement par la sensation ou la qualité phénoménale qui constitue leur référence. C'est ce qu'affirme clairement Michael Tye, par exemple, qui est un des participants actifs de ce débat. Les concepts phénoménaux réfèrent directement, et par conséquent, la contribution qu'ils fournissent à la pensée est donnée par leur référent exclusivement. Alors, il y a une autre manière d'exprimer cette idée, mais je ne suis pas sûr que tous les auteurs l'accepteraient telle qu'elle. C'est de dire, comme Chalmers, que les concepts phénoménaux ne sont pas seulement des désignateurs sémantiquement rigides, mais qu'ils sont aussi des désignateurs épistémiquement rigides. Il peut se trouver que j'emploie correctement le concept « eau », c'est-à-dire en désignant par là H2O sans savoir que je désigne H2O, mais il ne se peut pas que j'emploie correctement le concept phénoménal de douleur sans savoir comment c'est d'avoir mal. Je cite Chalmers, « Dans le cas phénoménal pur, la qualité des expériences joue un rôle dans la constitution du contenu épistémique du concept. On pourrait dire de manière très relâchée que dans ce cas, le référent du concept est d'une certaine manière présent à l'intérieur du sens du concept, d'une manière beaucoup plus forte que dans les cas habituels de référence directe. Le concept phénoménal pur est épistémiquement rigide. Alors cette idée est évidemment clairement néo-russellienne, et Chalmers l'admet tout à fait. On pourrait voir ici, je cite encore, une certaine justification pour l'affirmation de Russell selon laquelle nous avons une capacité spécifique pour la référence directe à nos expériences. Dans le cas phénoménal, le contenu épistémique lui-même semble être constitué par le référent. Alors, l'adoption de cette thèse de la référence directe crée deux problèmes difficiles, qui sont au cœur, me semble-t-il, des débats sur les concepts phénoménaux. Le premier problème, c'est celui du mode de fixation de la référence. Par quoi la référence est-elle fixée si elle n'est pas fixée par une description ? Si mon concept phénoménal C réfère à la qualité phénoménale Q de S de ma sensation S, il doit me permettre d'identifier Q de S, c'est-à-dire d'une part de la discriminer de Q de T, qui est la qualité phénoménale de la sensation T, et d'autre part de l'identifier à nouveau comme la même Q de S si j'éprouve à nouveau S. La réponse la plus naturelle est de dire que la référence est fixée par un acte mental d'ostension. Et les premiers défenseurs de la stratégie des concepts phénoménaux ont défendu l'idée que ceux-ci sont des concepts démonstratifs du type « cette sensation-ci » associée à un acte mental, à une ostension mentale, à un acte mental de pointer vers la sensation en question, à travers une forme d'introspection, si vous voulez. Alors, cette conception a été fortement critiquée, mais comme je le montrerai, pour la remplacer, les défenseurs de la stratégie font tous appel ou bien à un dispositif causal ou sémantique qui pointe la sensation, qui constitue une sorte de mime de l'ostension, si vous voulez, ou bien encore à l'enrôlement de concepts phénoménaux définis eux-mêmes non démonstrativement dans une procédure démonstrative. Ce sera la solution de Charles Merz. Donc selon ma propre interprétation du débat, toutes les théories des concepts phénoménaux, du moins toutes celles qui admettent la référence directe, doivent avoir recours à l'ostension ou à un équivalent d'ostension. Et cette ostension ne peut être évidemment qu'une ostension privée, au sens de Wittgenstein. Deuxième problème, c'est le problème de la nature de la relation entre le concept phénoménal et la qualité à laquelle il réfère. Si c'est le référent qui doit fournir entièrement son contenu au concept, quelle relation y a-t-il entre eux ? Suffit-il, comme le soutiennent les versions qu'on peut appeler recognitionnelles, de postuler entre le concept et son référent une relation de détection, c'est-à-dire finalement une relation de type causal, ou faut-il, comme le soutiennent les versions qu'on peut appeler constitutives, par exemple celle de Chalmers, postuler que l'expérience doit être partie intégrante du concept lui-même, autrement dit que l'expérience doit entrer d'une manière ou d'une autre dans le concept. Traduisons dans le langage de Wittgenstein, cela revient à se demander si la relation entre le concept phénoménal et l'expérience peut être une relation seulement externe ou si elle ne doit pas être une relation interne, c'est-à-dire une relation telle qu'on ne peut pas avoir logiquement l'un sans l'autre. Et la caractérisation des concepts phénoménaux comme des désignateurs épistémiquement rigides pousse en faveur de la seconde interprétation. Mais dans ce cas, évidemment, comment comprendre la relation interne en question ? J'en arrive donc à ma deuxième partie, dans laquelle je voudrais exposer un petit peu le contenu de quatre modèles différents de théorie des concepts phénoménaux. Pourquoi je fais cela ? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en m'appuyant sur les critiques que les tenants de ces différents modèles se sont mutuellement adressés, il n'y a pas de consensus du tout sur la bonne théorie. Je voudrais faire émerger un faisceau de difficultés conceptuelles qui me semble commune à toutes ces théories. Et à cet égard, ma présentation sera un peu différente de celle qu'on rencontre dans la littérature. Habituellement, les auteurs présentent le débat sur les concepts phénoménaux à partir du problème qui les tracasse tous, qui est le problème ontologique. C'est-à-dire la question, est-ce qu'on peut trouver une théorie des concepts phénoménaux qui satisfasse la contrainte matérialiste ? Mon idée est plutôt que si on veut comprendre pourquoi le débat reste pour l'instant sans issue, il faut laisser de côté le problème ontologique et se concentrer sur le cadre conceptuel qui est commun à la quasi-totalité de ces théories. Et il faut se concentrer sur, enfin, en ayant en tête que c'est ce cadre et les intuitions qui sous-tendent ce cadre qui sont responsables de l'état insatisfaisant pour tout le monde du débat. Deuxièmement, il me semble que l'examen des termes de ce débat, ce qui suppose de rentrer un petit peu dans le détail, débat qui est, à mon avis, d'une grande qualité philosophique, tant par son haut niveau de précision technique et conceptuelle que par la radicalité des alternatives proposées, l'examen des termes de ce débat donc devrait aider à mieux formuler les difficultés conceptuelles que rencontre inévitablement quiconque veut tenter de décrire les relations entre nos sensations ou nos expériences vécues et les concepts au moyen desquels nous les pensons ou les décrivons. Pour le dire autrement, et de manière un petit peu polémique, il me paraît stérile de déclarer « Nous autres Wittgensteiniens savons bien depuis le début que tout ce débat n'aboutira à rien et pourquoi il ne peut aboutir ». Une telle attitude qui revient à désespérer d'avance de tout ce que pourra dire sur ces questions la philosophie analytique mainstream me semble aujourd'hui partagée à la fois par les Wittgensteiniens orthodoxes, par Hacker et ses élèves, il y a un livre de Hacker qui est entièrement, me semble-t-il, sur cette position-là, en durcissant un petit peu le jugement sur ce livre, mais aussi partagée par les disciples de Cavell et par les tenants du New Wittgenstein. Pour ma part, je crois plus intéressant d'essayer de trouver précisément dans les points d'achoppement du débat actuel entre les différents partisans des concepts phénoménaux, des outils de clarification sur un ensemble de difficultés conceptuelles tout à fait réelles et peut-être à peu près inévitables. Et il me semble que cette manière de faire est plus proche de ce que faisait Wittgenstein lui-même quand il se confrontait aux détails des textes de Russell, de James, de Keller ou à l'état antérieur de ses propres idées. Tout d'abord, le modèle démonstratif. Selon ce modèle, les concepts phénoménaux seraient des concepts démonstratifs. Donc un concept démonstratif comme ceci réfère directement, si je dis ceci en pointant vers le vert, je pointe l'objet du doigt, je m'y réfère par ostension, sans passer par une description. Si je dis « ceci est à moi », je ne décris rien, je pointe simplement l'objet. Alors, dans le cas des concepts phénoménaux, toutefois, la référence ne doit pas être à un token, disons à un exemplaire singulier, mais à un type. Quand Marie, voyant pour la première fois une tomate mûre, s'écrit « ah, voir du rouge, c'est ça », en pointant mentalement, si je peux dire, elle doit désigner par là non seulement un token, la sensation qu'elle a présentement, mais un type. Le type de sensation qu'elle aura également quand elle verra une voiture de pompier, par exemple. Sinon, on ne peut pas dire qu'elle a acquis le concept de l'effet que ça fait de voir du rouge. Alors, il nous arrive effectivement d'employer des concepts démonstratifs pour référer à des types d'objets, pas simplement à des tokens. Si, par exemple, je suis très incompétent en matière de marque d'automobile, je peux, devant une Ferrari et une Porsche qui sont stationnées côte à côte, dire « je vois bien que celle-ci, en pointant la Ferrari, est différente de celle-là, en pointant la Porsche. Et si plus tard je suis à nouveau devant le même modèle de Ferrari, je peux dire « ah, c'est la même que celle de tout à l'heure ». De la même manière, si Marie est simultanément face à une tomate mûre et à une tomate pas mûre, elle peut déclarer « ah, avoir cette sensation-ci, de rouge, n'est pas la même qu'avoir cette sensation-là, de vert ». Et si elle voit ensuite, une voiture de pompier, elle peut dire « ah, c'est la même que la première de tout à l'heure ». Mais si c'est ainsi que fonctionnent les concepts phénoménaux, ce sont des démonstratifs d'un genre tout à fait particulier. Ils ne peuvent pas être des indexicaux, à proprement parler, puisque la référence d'un indexical est par définition sensible au contexte. Si je montre le vert en pointant en disant « ceci », si je montre ça, si je fais ça en disant « ceci », je désigne le vert. Mais si je dis ceci en pointant ça, je désigne évidemment la bouteille. Donc, les véritables indexicaux, la référence des indexicaux change continuellement selon le contexte. C'est le propre d'un indexical. Pour le genre de démonstratif qui nous intéresse, la référence est en réalité fixée par le token qui a été pointé la première fois et qui fonctionne ensuite comme un échantillon. La Ferrari, vue et pointée la première fois, devient l'échantillon de toutes les celles-ci ultérieures, et la sensation de rouge vécue pour la première fois par Marie devient l'échantillon de toutes les sensations de rouge ultérieures. On est donc conduit à dire, les théoriciens des concepts phénoménaux qui adoptent le modèle démonstratif sont contraints d'évoluer, et de dire qu'un concept phénoménal ne peut fonctionner comme un concept démonstratif qu'à la condition qu'on inclut dans ce concept la sensation elle-même telle qu'elle a été vécue la première fois, sensation qui fonctionnera désormais comme un échantillon. Chaque fois que Marie aura une nouvelle sensation de rouge, elle l'identifiera à partir d'un échantillon mental de son expérience initiale de rouge qu'elle a conservé en mémoire. J'ai une petite parenthèse qui me fascine en lisant tous ces textes, c'est que j'ai l'impression de relire continuellement l'argument du langage privé et des textes de Wittgenstein. C'est que toutes les ornières, si je peux dire, dans lesquelles tous les rails sur lesquels se développent ces discussions sont déjà d'une certaine manière pointés par Wittgenstein. Alors, cette conception qui a été défendue par Ned Block, notamment, se heurte à deux objections décisives. Objections qui viennent des auteurs, d'autres défenseurs des concepts phénoménaux. Premièrement, il y a l'objection bien connue et déjà avancée par Wittgenstein, qui consiste à remarquer que pointer un échantillon ne suffit jamais à fixer une référence. Michael Tye fait cette observation. Un échantillon mental qui exemplifie une propriété phénoménale en exemplifiera de nombreuses. Mon image, quand je pense à quelque chose d'aspect rouge, n'exemplifiera pas seulement l'expérience du rouge, mais aussi l'expérience de l'écarlate, l'expérience du rouge foncé, l'expérience du coloré, etc. À laquelle de ces propriétés exemplifiées, le concept démonstratif, cette propriété phénoménale, réfère-t-il ? Il semble que le recours à un échantillon mental ne soit d'aucune aide pour fixer la référence du concept phénoménal. Donc, solution illusoire. Mais il y a une deuxième objection, qui est peut-être plus décisive encore, car elle s'applique également, on le verra plus loin, aux deux conceptions suivantes, la conception recognitionnelle et la conception citationnelle. C'est l'objection dit ceci, « Bien qu'il soit exact que l'ostension joue nécessairement un rôle dans l'acquisition et l'application des concepts phénoménaux, ceux-ci, sous peine de vacuité, doivent être distincts des démonstratifs qui servent à leur application. » Je cite ici Joseph Levine, mais l'argument vient de Chalmers. L'article de Levine, qui est cité dans la bibliographie, m'intéresse beaucoup et je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, il passe en revue toutes les différentes conceptions et tous les différents modèles. Quand quelqu'un pense ou énonce « cette expérience est du type phénoménal R », où R signifie « notre concept phénoménal de commencer de voir du rouge », la proposition exprimée est cognitivement signifiante. Ce n'est pas une simple tautologie. Marie apprend quelque chose. Cependant, si, je continue la citation, si R signifiait seulement le type phénoménal dont cette expérience est un token, l'énoncé serait tautologique. Le point est que quand j'identifie l'expérience présente comme relevant d'un certain type, j'ai dans l'esprit un contenu substantiel et déterminé concernant le type en question. La conception démonstrative ne peut en rendre compte. Autrement dit, pour que la déclaration « voir du rouge, c'est ça » ne soit pas vide, il faut que le concept phénoménal que Marie acquiert et applique ait un contenu substantiel déterminé, un contenu qui ne se réduise pas à « ça que j'éprouve maintenant ». Deuxième modèle, le modèle recognitionnel. Essentiellement défendu par Tye. Alors, je signale au passage, parce que les choses vont très vite, j'ai découvert hier, en surfant sur Internet, que Tye venait de publier un livre, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, j'ignorais son existence, mais ça vient de sortir ces dernières semaines, un livre dans lequel il renonce, il explique, alors qu'il est depuis 10 ans un des partisans de la stratégie phénoménale, dans lequel il renonce à la stratégie phénoménale, et qui s'intitule, en sous-titre, « Le matérialisme sans concepts phénoménaux ». Mais je m'en tiendrai à son article de 2003 où il défend une conception tout à fait forte des concepts phénoménaux. Alors selon ce modèle, ce qui est intéressant évidemment dans tout ça, c'est les différentes positions, les différents modes de pensée qui sont mis en œuvre. Selon ce modèle, les concepts phénoménaux sont des concepts sui generis au moyen desquels nos différentes sensations sont reconnues par nous, c'est-à-dire détectées, discriminées, identifiées. Je cite encore Levine, qui offre une bonne présentation de la chose. Un concept recognitionnel est un concept qui s'applique d'une manière immédiate. Tout son contenu est donné par ce à quoi il s'applique. Il n'y a pas de mode substantiel de présentation autre que celui qu'il s'applique à lui-même. Être purement recognitionnel, c'est être un peu comme un réflexe représentationnel, un procédé de détection primitif. La propriété est instanciée, le concept est appliqué. Alors, à première vue, ce modèle est intéressant parce qu'il semble rendre compte d'un trait important des concepts phénoménaux, qui est que les jugements que nous formons grâce à eux sont des jugements primitifs, des jugements qui, à la différence des jugements portant sur des objets extérieurs, ne reposent sur rien d'autre. Si je dis « il y a de la neige dans la cour », Je dois pouvoir justifier ce jugement par une observation, par exemple, j'ai vu tout à l'heure que bon. Mais si je dis j'ai mal, mon jugement est primitif. Il ne repose sur rien d'autre que mon expérience elle-même. Alors le point est tout à fait familier au lecteur de Wittgenstein, hein, les énoncés psychologiques en première personne sont invérifiables ou injustifiables, au sens où ils n'appellent et n'admettent aucune vérification ou justification. Mais à partir de là, comment les défenseurs de ce modèle rendent-ils compte du lien direct et immédiat entre sensation et concept ? Bien, ils sont amenés à faire l'hypothèse, puisqu'ils sont matérialistes, que notre cerveau est doté d'un dispositif qui, chaque fois qu'une sensation est produite, produit simultanément le concept correspondant. Je cite l'article de Taille. « Notre nature phylogénétique détermine quelles expériences nous éprouvons. Nous sommes câblés pour éprouver diverses sensations corporelles et nous éprouvons diverses expériences perceptuelles. Nous sommes également équipés par l'évolution et la nature pour répondre cognitivement à nos expériences selon un certain éventail de modalités chaque fois que nous les éprouvons. En répondant cognitivement, nous amenons ces expériences sous des concepts phénoménaux. » Alors, comme on le comprend, la fixation de la référence est assurée par un processus causal, ou plus exactement par ce que j'appellerais une sorte de boucle causale. Le concept phénoménal est produit par cette même propriété physique qu'il désigne introspectivement sous son aspect phénoménal. C'est donc un dispositif physico-physiologique, strictement causal, qui assure la fixation de la référence, ce qui signifie bien entendu que la correction de l'identification ou la correction de la réidentification vont dépendre exclusivement de la fiabilité du dispositif en question. Je cite toujours Taille. L'introspection d'un caractère phénoménal est un processus fiable qui prend le caractère phénoménal comme input et qui produit comme output la conscience, ici c'est awareness en anglais, qu'un état doté d'un certain caractère phénoménal est présent. C'est la fiabilité de ce processus qui garantit la connaissance du caractère phénoménal. Alors, adopter ce modèle revient donc à faire l'hypothèse que nous avons des dispositifs implantés qui sont des détecteurs et des discriminateurs de sensations, des mécanismes pointeurs, si vous voulez, qui font par un dispositif causal ce que, dans la version démonstrative, les concepts démonstratifs étaient censés faire. Ils miment l'ostension, si vous voulez. Alors, ce modèle se heurte à deux objections qui sont fortement convergentes. La première consiste évidemment à nier que la causalité soit suffisante pour rendre compte de l'étroitesse du lien entre sensation et concept. Notamment, la causalité ne peut pas rendre compte de la condition étiologique. On pourra, celle selon laquelle je ne peux pas avoir le concept sans avoir vécu ou éprouvé la sensation. On pourra en effet toujours imaginer qu'un mécanisme puisse être implanté artificiellement dans mon cerveau de telle manière que j'ai la capacité cognitive d'identifier et de reconnaître une certaine sensation sans jamais avoir éprouvé cette sensation auparavant. Cette objection pousse à demander que la relation entre concept et sensation soit comprise comme une relation interne et non pas externe. Deuxième objection, c'est que la version récognitionnelle ne dote pas les concepts phénoménaux d'assez de substance ou d'épaisseur pour qu'ils puissent jouer leur rôle. On peut formuler cette objection de la façon suivante, c'est ma reformulation à moi. Le contenu d'un concept, on l'a dit, est tout entier fourni par son référent. Mais dans un modèle recognitionnel strict, c'est le référent en tant que propriété ou état physique qui constitue le contenu du concept phénoménal. Or, ce qui importe dans un concept phénoménal, c'est qu'il opère une distinction entre ces mêmes propriétés ou états dans leur dimension phénoménale et pas dans leur dimension physique. Alors, certains auteurs, comme Janet Levin, vous trouverez la référence à son article dans la bibliographie, semblent estimer que ce n'est pas nécessaire, que puisque les concepts phénoménaux réfèrent directement, on n'a pas besoin de soutenir qu'ils réfèrent selon un mode de présentation lui-même phénoménal. Elle écrit « Si les concepts phénoménaux réfèrent directement, leur non-équivalence avec des concepts physiques ou fonctionnels n'implique pas qu'ils doivent dénoter au moyen d'un mode de présentation non physique. » Mais même d'un point de vue matérialiste, il me semble assez incompréhensible qu'on doive dire à la fois que les concepts phénoménaux réfèrent en première personne, donc, et qu'on doive dire en même temps qu'ils réfèrent selon une modalité qui... qu'on ne doive pas dire en même temps, que cela n'implique pas qu'on doive dire en même temps qu'il réfère selon une modalité non physique. On est en droit, au contraire, de penser que pour que nous ayons vraiment affaire à des concepts phénoménaux, la référence des concepts ne peut pas être fixée seulement par l'existence d'une relation de causalité différentielle entre eux et les états physiques auxquels ils réfèrent, mais qu'il doit exister en outre une relation telle que la différenciation de ces états soit opérée au niveau phénoménal. Pour le dire autrement, les concepts phénoménaux ne diffèrent pas entre eux seulement à cause du référent physique qui est le leur, ils doivent enregistrer phénoménalement les différences entre leurs référents. C'est pourquoi un nombre important d'auteurs ont été conduits à essayer de construire des modèles qui soient compatibles avec cette idée que le mode de présentation du référent doit être lui-même phénoménal. Des modèles qui relèvent d'une conception non plus seulement recognitionnelle, mais constitutive des concepts phénoménaux. Ce sont, comme l'explique Kathleen Balogh, des variations sur l'idée que certains concepts phénoménaux sont partiellement constitués par les expériences phénoménales auxquelles ils réfèrent. Et selon cette conception, une expérience phénoménale présente une partie du concept token qui lui est présentement appliqué, et cette expérience détermine, au moins partiellement, que le concept réfère à l'expérience qu'il contient. Alors, Balogh précise, par partie, bien sûr, je n'entends pas une partie spatiale, mais une partie au sens où il est métaphysiquement impossible d'avoir le concept token sans avoir le référent token. En clair, ça veut dire que la relation entre concept et expérience doit être une relation interne. Alors, la question devient alors pour beaucoup d'auteurs de savoir s'il est possible de construire un modèle constitutif des concepts phénoménaux qui reste compatible avec la contrainte matérialiste. Alors, c'est ce qu'a essayé de faire Papineau, qui est l'auteur, ou un des principaux défenseurs, du troisième modèle, le modèle citationnel. C'est un modèle, je dois dire, particulièrement intéressant. Alors, parmi donc les modèles de type constitutif qui restent matérialistes, il y a celui de Papineau. Il l'a d'abord exposé dans son livre en 2002, Thinking About Consciousness, et puis il en a présenté une seconde version, considérablement amendée, dans un article qui a été publié en 2007, et qui s'intitule « Phenomenal and Perceptual Concepts ». C'est la seconde version, évidemment, que je vais exposer ici. Dans cet article, Papineau commence par définir ce qu'il appelle des concepts perceptuels. Le concept perceptuel d'un objet X contient l'ensemble des traits perceptuels que cet objet a pour moi. C'est, si vous voulez, le concept de l'aspect visuel de cet objet. Autrement dit, un concept qui saisit l'objet lui-même sous son aspect visuel ou perceptuel. Par exemple, cet oiseau tel qu'il m'apparaît à l'instant où je le vois au fond du jardin. Alors Papineau fait trois remarques importantes à ce sujet. Premièrement, dit-il, les concepts perceptuels ne sont pas des concepts démonstratifs ou indexicaux. Certes, nous sommes amenés souvent à les exprimer à l'aide d'expressions verbales qui sont grammaticalement des démonstratifs. Nous ne connaissons pas toujours le nom de l'oiseau, et plus généralement, nous avons beaucoup plus de concepts que nous n'avons de noms. Donc, nous avons recours à des périphrases qui utilisent des démonstratifs. Mais le concept que j'acquiers, quand je vois pour la première fois un certain oiseau, que je n'avais jamais vu, pour lequel je n'ai pas de nom, est un concept substantiel, c'est-à-dire doté d'un contenu informatif propre, à savoir les différents traits perceptuels de l'oiseau, sa forme, sa couleur, sa taille, tels qu'ils m'apparaissent. Deuxièmement, les concepts perceptuels peuvent être utilisés pour référer tantôt à un token, à un exemplaire, à l'oiseau vu à cet instant, tantôt à un type, le type de l'oiseau que j'ai vu à cet instant. Ça dépend uniquement, dit Papineau, de l'usage que nous en faisons, c'est-à-dire du genre d'attention et d'intention que nous mettons en œuvre en fonction de nos intérêts. Troisièmement, et c'est le plus important, un concept perceptuel peut être compris comme une sorte de patron sensoriel, je traduis comme ça « sensory template », pas de meilleure traduction de template, si vous en avez une, je suis preneur, une sorte de patron mental, si vous voulez, qui est emmagasiné dans l'esprit et auquel un certain nombre d'informations peuvent être attachées. Je cite Papineau, « Nous pouvons utilement concevoir les concepts perceptuels comme incluant des patrons sensoriels emmagasinés. Ces patrons sont créés à l'occasion des rencontres initiales avec les référents concernés. Ils sont ensuite réactivés lors des rencontres perceptuelles ultérieures via des confrontations entre les stimuli reçus et les patrons emmagasinés. La fonction de ces patrons est d'accumuler de l'information sur les référents concernés et donc de guider les futures interactions du sujet avec eux. Alors, comme on voit, cette conception des concepts perceptuels pourrait être assez grossièrement qualifiée de jungienne. Concernant les concepts phénoménaux, la thèse de Papineau 2007 est qu'ils ne sont rien d'autre qu'une certaine sorte de concept perceptuel, ou plus exactement, mais ici c'est ma propre formulation, et je tire peut-être Papineau dans un sens qui m'intéresse, on peut dire qu'ils correspondent à une certaine manière d'utiliser ces patrons sensoriels que sont les concepts perceptuels. Je cite Papineau, « Ma conception aujourd'hui est que les concepts phénoménaux sont simplement des cas spéciaux de concepts perceptuels. Nous pouvons concevoir les concepts phénoménaux simplement comme des mises en œuvre ultérieures de ces mêmes patrons sensoriels, mais utilisés cette fois pour penser aux expériences perceptuelles elles-mêmes et non plus aux objets de ces expériences. Autrement dit, je vois un oiseau, ou je l'imagine visuellement, puis maintenant je ne pense plus à cet oiseau ou à une espèce, mais à l'expérience, à la perception consciente, conscious awareness, d'un oiseau. Qu'est-ce qui fait que le référent change et devient l'expérience elle-même? Eh bien, dit Papineau, simplement, la direction de mon attention et de mon intention. De même que je peux utiliser le patron mental, le sensory template, pour désigner soit cet oiseau-ci, soit son espèce, de la même manière, je peux l'utiliser pour désigner l'expérience elle-même, ou plus exactement, précise Papineau, le type d'expérience auquel appartient le token d'expérience qui est le mien présentement. Ce qui change donc, c'est le mode d'emploi du patron sensoriel, si vous voulez. Autrement dit, son usage. Je cite encore Papineau, « Les mêmes patrons sensoriels qui sont normalement utilisés pour penser aux choses perceptibles référeront aux expériences elles-mêmes. Vous regardez ou vous imaginez visuellement cet oiseau, mais maintenant, vous utilisez cet état sensoriel pour penser à l'expérience de voir l'oiseau, et pas seulement à l'oiseau lui-même. Les mêmes patrons sensoriels sous-tendent à la fois les expériences perceptuelles et les pensées phénoménales concernant ces expériences. » Donc on a bien ici affaire à une conception constitutive, et non plus seulement recognitionnelle des concepts phénoménaux, puisque ce qui constitue le contenu du concept phénoménal, c'est l'expérience elle-même, ou plus exactement, un token du type d'expérience en question, un exemplaire du type d'expérience en question. Et c'est cette inclusion d'un token de l'expérience dans le concept référent à son type qui assure la fixation de la référence. Celle-ci donc n'est plus fixée par ostension, comme dans le premier modèle, ni par un dispositif de covariation causale, comme dans le modèle recognitionnel, mais par un dispositif sémantique qui est analogue à celui d'une citation, puisqu'il consiste à faire usage d'une version de l'expérience pour mentionner la sorte d'expérience en question. Cela signifie que toute mise en œuvre, je cite encore Papineau, toute mise en œuvre d'un concept phénoménal pour penser à une expérience perceptuelle contiendra inévitablement soit cette expérience elle-même, soit une recréation imaginaire de cette expérience. Penser phénoménalement à une expérience donnée, c'est toujours faire usage d'une version de cette expérience pour mentionner ce type d'expérience. Alors, un des avantages majeurs de cette conception citationnelle aux yeux de Papineau, c'est qu'elle se présente comme une manière particulièrement simple et, je dirais, élégante de rendre compte de notre intuition de distinction entre les états physiques et fonctionnels d'une part et les états mentaux phénoménaux d'autre part. Si je désigne un certain état E, au moyen d'un concept physique ou fonctionnel, l'usage de ce concept n'implique aucune expérience vécue particulière, aucune sensation. Mais si je désigne ce même état E au moyen d'un concept phénoménal, ce concept inclut la mention de l'expérience en question, et donc la présence ou la réactivation de cette expérience. Voilà pourquoi j'ai dans ce second cas, dit Papineau, le sentiment de parler en présence. Enfin, voilà pourquoi j'ai dans ce second cas, selon Papineau, le sentiment de parler en présence de mon expérience, je reprends cette expression à Wittgenstein, c'est Wittgenstein qui parle de cela, par le sentiment de parler en présence de mon expérience. Et c'est exactement ça dont parle Papineau. Donc le sentiment d'hétérogénéité ou d'incommensurabilité entre le physique et la conscience résulte exclusivement, selon Papineau, de ce fonctionnement spécifique des concepts phénoménaux. Ils impliquent et ils incluent la présence mentale des expériences qu'ils désignent. Alors, à mes yeux, un autre mérite de cette conception, c'est qu'elle fait des concepts phénoménaux, et il me semble qu'elle est une des rares à le faire, non pas des concepts primitifs, comme dans les modèles démonstratifs et recognitionnels, mais des concepts dérivés. Ce qui signifie premièrement que pour avoir un concept phénoménal de l'expérience de voir un oiseau, il faut déjà avoir un concept perceptuel de l'aspect visuel de cet oiseau, et deuxièmement que le même concept qui sert à décrire l'objet vu servira aussi à décrire la sensation ou l'expérience de l'objet en question. On trouve des idées strictement identiques chez Wittgenstein sur cette question-là, sur le caractère dérivé des concepts touchant l'apparence ou touchant nos propres expériences ou nos propres sensations. Alors, on observera cependant ici que si l'on pousse cette idée jusqu'au bout, cette idée que les concepts phénoménaux sont des concepts dérivés, c'est-à-dire que ce sont en réalité des concepts perceptuels, mais utilisés d'une certaine manière, et pour parler un langage wittgensteinien, dans certains jeux de langage greffés sur ceux de la perception, que les jeux de langage de la perception sont premiers et que les jeux de langage touchant nos expériences sont nécessairement seconds et dérivés, eh bien c'est peut-être la catégorie même de concepts phénoménaux qui menace de se dissoudre. C'est pourquoi, sans doute, bien que Papineau dise que ce sont des cas spéciaux de concepts perceptuels, il ne va jamais jusqu'à dire que ce qui les caractérise est exclusivement leur mode d'emploi, ce qu'un wittgensteinien serait pourtant tenté de dire. Quoi qu'il en soit, et quels que soient par ailleurs les mérites de cette conception, elle se heurte, aux yeux d'un certain nombre de philosophes de la conscience contemporains, à deux objections. Nous les avons déjà rencontrées, et ça me permettra d'être bref. Premièrement, c'est qu'évidemment, le patron sensoriel fonctionne dans cette conception comme un échantillon, et un échantillon, on l'a déjà dit, est incapable de fixer à lui seul la référence. Deuxièmement, c'est que remplacer le mécanisme de détection du modèle recognitionnel par un mécanisme de citation ne crée pas et ne rend pas, ne crée pas une relation cognitive plus étroite ou plus intime entre le concept et l'expérience à laquelle il réfère. Argument de Levine, le point est qu'il n'y a en vérité aucune portée cognitive spécifique à utiliser un objet pour le représenter lui-même. La relation qu'il entretient avec lui-même n'est pas différente de la relation que les représentations normales entretiennent avec leur référent. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement une caractérisation des concepts phénoménaux qui, d'une manière physique, inclut des états phénoménaux, mais bien plutôt un compte-rendu de la manière dont le fait qu'un état phénoménal est inclus de cette façon fournit au concept phénoménal correspondant le type de contenu cognitivement présent, déterminé et substantiel qu'il semble avoir. Est-ce que utiliser certains états d'un ordinateur pour se représenter eux-mêmes produirait le même accès cognitif spécifique ? Et donc, pour assurer à un concept phénoménal la présence cognitive requise, il ne reste plus, selon Levine, d'autre moyen que de faire appel à la bonne vieille idée d'acquaintance. Alors, la plupart des philosophes de la conscience ne sont pas prêts à sauter ce pas, notamment ceux qui sont matérialistes, mais ça ne gêne nullement un défenseur du dualisme comme Chalmers. Quatrième modèle, donc, le modèle avec acquaintance. Alors, le modèle de Chalmers est très détaillé. Je m'en tiendrai à trois points m'intéressent. Premièrement, c'est que, bien que les concepts phénoménaux ne soient pas eux-mêmes, selon Chalmers, des concepts démonstratifs, leur référence est fixée à l'aide d'un concept démonstratif par un acte d'ostension privée. Chalmers commence par distinguer ce qu'il appelle des concepts phénoménaux démonstratifs, qui eux fonctionnent comme des indexicaux classiques, et des concepts phénoménaux purs qui saisissent les qualités phénoménales intrinsèquement et qui ont donc un contenu qualitatif substantiel, et qui ne sont pas démonstratifs. Autrement dit, la déclaration de Marie « Ah, voir du rouge, c'est ça » est un jugement qui consiste, selon Chalmers, à poser une relation d'équivalence entre les contenus de ces deux concepts, le contenu du concept phénoménal démonstratif et le contenu du concept phénoménal pur, substantiel. Cette sensation que je montre là, c'est la sensation de voir du rouge. Et ce jugement, dit Chalmers, n'est ni trivial ni vide. Autrement dit, il est essentiel pour la conception de Chalmers que, d'une part, le concept phénoménal pur ne soit pas démonstratif, sans ça il ne serait pas substantiel, mais d'autre part, que son contenu soit fixé démonstrativement. Deuxièmement, les concepts phénoménaux purs premiers, que Chalmers appelle des concepts phénoménaux directs, sont partiellement constitués par la qualité à laquelle ils réfèrent. Au sein des concepts phénoménaux purs, Chalmers distingue des concepts durables et des concepts qu'il appelle directs, des sortes de concepts instantanés. Et c'est typiquement un concept de ce type que Marie acquiert quand elle a pour la première fois l'expérience de voir du rouge. Les contenus des concepts phénoménaux directs, dit Chalmers, sont strictement déterminés par la qualité phénoménale elle-même et partiellement constitués par elle. Un concept phénoménal, je cite, est formé en portant attention à une qualité et en incluant cette qualité dans un concept dont le contenu reflète la qualité en question. Troisième idée, les concepts phénoménaux directs sont dans une relation épistémique tout à fait spécifique avec les expériences sur lesquelles ils portent, c'est la relation d'acquaintance. Alors Chalmers l'a défini de la manière suivante, nous avons une relation spécifique aux propriétés phénoménales instanciées dans notre expérience, nous pourrions appeler cette relation acquaintance. C'est évidemment le terme de Russell. L'acquaintance peut être regardée comme une sorte de relation épistémique de base entre un sujet et une propriété. Chaque fois qu'un sujet a une propriété phénoménale, ce sujet est acquainté avec cette propriété phénoménale. L'acquaintance est une relation qui rend possible la formation de concepts phénoménaux purs, et nous avons vu que les concepts phénoménaux purs incluent une sorte déterminée de compréhension lucide des propriétés phénoménales. Ainsi, l'acquaintance est une relation qui rend possible cette sorte de compréhension lucide. Pour le dire un peu crûment, la relation d'acquaintance est une relation telle que le pur sentir est déjà et en même temps un connaître. C'est cette relation d'acquaintance qui explique d'ailleurs, c'est assez cohérent dans la position de Chalmers, que les concepts phénoménaux puissent être des désignateurs non seulement sémantiquement rigides, mais épistémiquement rigide. Alors bien entendu, Chalmers est parfaitement conscient que sa conception, ostension privée, acquaintance, est typiquement le genre de cible contre laquelle l'argument du langage privé de Wittgenstein est tourné. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne l'émeut pas beaucoup. Bien sûr, la conception que j'ai exposée ici est exactement la sorte de conception contre laquelle Wittgenstein a dirigé son argument du langage privé. La nature de l'argument du langage privé est disputée. En réponse, donc, je peux seulement dire que je ne connais aucune reconstruction de cet argument qui fournisse une objection sérieuse contre la conception que j'ai développée. Exit l'argument du langage privé. Alors, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ce débat? On pourrait en tirer beaucoup. À l'heure qu'il est, il serait temps que je m'en tienne à une, qui est la suivante. C'est que tous ces modèles présupposent une thèse que je propose d'appeler la thèse de l'auto-présentation et de l'auto-identification des expériences et des sensations. Cette thèse, en réalité, est triple, ou elle contient trois éléments, comme vous voudrez. Première thèse, ou premier élément de la thèse, chaque sensation a au moins une qualité phénoménale qui lui est propre. Deuxième thèse, ou deuxième partie de la thèse, c'est par cette qualité et par elle seule que nous l'identifions comme la sensation ou l'expérience qu'elle est. Alors, j'explique déjà ces deux premiers points. Quand je ressens une sensation de douleur, dit la thèse, celle-ci a une qualité spécifique qui me fait l'identifier immédiatement comme une sensation de douleur et non comme une sensation de froid ou comme une sensation de plaisir. Cette qualité, baptisons-la la dolorité, peu importe, est commune à toutes les sensations de douleur et les distingue de toutes les autres sensations. Et de la même manière, quand je ressens une sensation de migraine, celle-ci a une qualité spécifique, baptisons-la la migrainité, si vous voulez, qui me fait l'identifier immédiatement comme une sensation de migraine qui la distingue des autres sensations de douleur, comme par exemple la sensation d'une crampe, la crampité, ou la sensation d'une piqûre, la piqûrité. Je n'emploie ces termes barbares que pour essayer de faire comprendre ce qu'est véritablement le contenu de cette thèse. Mais il n'y a pas d'absurdité à concevoir un concept de crampité ou de piqûrité ou de migrainité, après tout. Bien sûr, chacune de ces sensations de douleur a sa cause et son lieu corporel, mais, c'est ça la thèse, chacune de ces sensations de douleur a, indépendamment de sa cause, de son lieu, de son expression ou de tout ce que vous voudrez, une qualité spécifique par laquelle je peux l'identifier comme la sensation de douleur qu'elle est. Cette idée est clairement expliquée par Tyler Burge dans les termes suivants. Parce que c'est rare que les philosophes de la conscience contemporaine expliquent aussi clairement cette thèse, qu'ils l'assument telle qu'elle. Burge écrit ceci: « La conscience phénoménale est fondamentale pour typifier les propriétés phénoménales, et les propriétés phénoménales sont fondamentales pour typifier les états et les événements. La manière dont une douleur est ressentie est essentielle ou fondamentale pour ce qu'est la douleur et pour ce qu'est une douleur. La même chose est vraie pour les autres sensations et impressions. Je pense que rien ne pourrait être une douleur, un épisode de douleur, s'il lui manquait la what it is likeness ou l'impression caractéristique ou les propriétés phénoménales qui individuent la douleur. » Alors une fois qu'on a admis ceci, on passe facilement à la troisième thèse ou à la troisième partie de la thèse qui est cruciale. L'identification d'une sensation ou d'une expérience par sa qualité phénoménale spécifique est immédiate. C'est ça la thèse ou la troisième partie de la thèse. Autrement dit, il nous suffit d'éprouver cette sensation pour être capable de l'identifier comme la sensation qu'elle est. Si j'ai mal, il suffit que je porte mon attention sur ma sensation pour l'identifier immédiatement, non seulement comme une sensation de douleur, et non comme une sensation de froid, mais aussi comme migraine, crampe ou piqûre. Pour prendre une image un peu caricaturale, mais ce n'est pas pour me moquer, c'est pour essayer de faire comprendre ce que ça veut dire, tout se passe comme si chaque sensation ou expérience portait sur son front une étiquette sur laquelle était écrit, avec une sorte d'encre sympathique, le nom de la sensation ou de l'expérience qu'elle est, et comme s'il suffisait d'un acte d'attention introspective pour que ce nom devienne lisible et que la sensation soit identifiée grâce à lui. Alors c'est cette troisième thèse qui constitue proprement la thèse que j'appelle thèse de l'auto-présentation ou de l'auto-identification des expériences et des sensations. Autrement dit, de la présentation et de l'identification des expériences et des sensations par elles-mêmes. Alors bien que cette thèse ne soit énoncée comme telle que rarement, elle est donc, à mon avis, un présupposé commun à toutes les théories des concepts phénoménaux, du moins à toutes celles qui présupposent la référence directe, et vraisemblablement à beaucoup de philosophies de la conscience. Je pense que si on remontait peut-être jusqu'à Descartes, on retrouverait cette thèse présente. Alors ce point a été reconnu par certains auteurs, comme David Stoliar, qui parle, lui, du caractère auto-présentationnel des concepts phénoménaux. Il commence par citer deux autres auteurs, Hill et McLaughlin, qui écrivent clairement « Quand on utilise un concept sensoriel, ils veulent dire un concept phénoménal, pour classifier ses propres expériences présentes, les expériences qui guident et justifient dans l'application du concept sont toujours identiques aux expériences auxquelles le concept est appliqué. » Les états sensoriels sont des états auto-présentationnels. Nous en faisons l'expérience, en anglais c'est « we experience them », mais nous n'en avons pas d'expérience sensorielle. Comme on dit, il n'y a pas de sensations à travers lesquelles nous fassions l'expérience des sensations. Nous en faisons l'expérience du seul fait d'être en eux, ou en elles de ces expériences, hein, ou je devrais plutôt traduire en elles. Les concepts sensoriels, autrement dit les concepts phénoménaux, sont des concepts recognitionnels. En déployant ces concepts, nous pouvons, par introspection, reconnaître que nous sommes dans des états sensoriels simplement en concentrant notre attention directement sur eux. Les choses sont évidemment différentes dans le cas des concepts perceptifs ou théoriques. L'accès d'un agent au phénomène qu'il perçoit est toujours indirect. Il se produit toujours par l'intermédiaire d'une expérience du phénomène perçu qui n'est pas identique avec le phénomène perçu, mais qui est causé par lui. Et Stoliar commente cette citation en ces termes: le concept phénoménal sensation rouge est différent de tout concept physique dans le sens suivant. c'est une vérité conceptuelle que si j'ai, une vérité conceptuelle, hein, que si j'ai une sensation rouge, et si j'ai le concept et concentre mon attention là-dessus, j'en viendrai par là même à savoir, ou tout au moins à croire de manière justifiée, que je suis en train d'avoir une sensation rouge. Les sensations rouges sont auto-présentationnelles. Et les concepts phénoménaux sont, à la différence des concepts physiques, des concepts auto-présentationnels, au sens où les états qui tombent sous les concepts phénoménaux sont auto-présentationnels. Cinq remarques pour conclure. Première remarque, elle concerne la nature du débat sur les concepts phénoménaux. Celui-ci me semble devoir se ramener, pour l'essentiel, à la question de savoir quel modèle rend le mieux compte de cette caractéristique d'auto-présentation des expériences. Si, par exemple, un simple dispositif de covariation causale entre expérience et concept suffit, ou si un dispositif citationnel fera l'affaire, ou bien s'il y a besoin de faire appel à la vieille idée russellienne d'acquaintance. Mais l'intérêt du débat sur les concepts phénoménaux, à mes yeux, c'est précisément qu'à travers les discussions techniques sur la référence épistémiquement rigide, sur le mode d'inclusion d'un token dans l'expérience, d'un token de l'expérience dans le concept correspondant, sur la forme de présence cognitive de l'expérience dans le concept, ils mettent en relief, en réalité, la thèse de l'auto-identification comme une thèse constitutive des philosophies contemporaines de la conscience et vraisemblablement des philosophies de la conscience tout court. Deuxième remarque, une fois que le débat a permis d'expliciter cette thèse, comme je viens de le faire, on peut facilement se rendre compte qu'elle est présente en germe, dès le premier geste, dès le premier pas des philosophes de la conscience. Par exemple, dans ces petites mises en scène apparemment anodines par lesquelles ils aiment à ouvrir leurs livres. Je cite Michael Tye, mais je pourrais vous donner 10 citations à peu près identiques. J'ai, dans le moment présent, c'est le début d'un livre sur la conscience, et phénoménal, et l'auteur veut nous expliquer ce que c'est que la conscience phénoménale. J'ai dans le moment présent une conscience phénoménale riche et variée. Mon champ visuel est rempli des couleurs de mon jardin. J'ai les sensations auditives d'un oiseau qui chante sur un arbre voisin. Je sens le bracelet de ma montre sur mon poignet et les manches de ma chemise sur mes bras. J'ai une sécheresse dans la bouche et un endolorissement dans le genou droit. Je sens mon pied toucher le sol, mes mains reposer sur mes jambes, mon front se plisser quand je réfléchis à ce que je vais écrire. Fin de citation. Alors, tant que de telles déclarations restent prises dans les jeux de langage ordinaire, elles ne soulèvent aucun problème. Mais artificiellement réunies pour former ce qu'on pourrait appeler une image de ce que le philosophe appelle conscience phénoménale, elles l'inclinent à accepter sans sourciller la condition que j'ai appelée condition d'isolation, ma condition 3 de tout à l'heure, ou condition de pureté phénoménale, à partir de quoi le philosophe est immanquablement entraîné, comme on l'a vu, vers la thèse de la référence directe ou super directe et à tous les problèmes que nous avons vus. Autrement dit, mon idée, c'est que si le philosophe de la conscience contemporain veut, comme Papineau, ne pas être, comme il dit, embrouillé avant même d'avoir commencé à théoriser, c'est dès les affirmations théoriques de ce genre qu'il doit commencer sa thérapie. Troisième remarque, c'est que si, comme le veut la thèse en question, les sensations s'auto-identifient, elles ne peuvent être nommées, pensées, décrites qu'au moyen d'un langage ou de concepts spécifiques, un langage ou des concepts proprement phénoménologiques. Autrement dit, la thèse de l'auto-identification des expériences est à la source de ce qu'on peut appeler l'idée ou la thèse phénoménologique, non pas au sens uniquement ou exclusivement de la phénoménologie husserlienne, hein, mais j'entends par thèse ou idée phénoménologique la thèse ou l'idée selon laquelle, pour saisir là où les qualités phénoménales d'une expérience donnée, ou donc pour pouvoir identifier ou décrire les expériences en question, il faudrait disposer d'un langage spécifique, un langage phénoménologique, ou tout au moins de propositions spécifiques, des propositions phénoménologiques, ou bien encore de concepts spécifiques, des concepts phénoménologiques. C'est-à-dire d'un langage, de propositions, de concepts, qui s'applique à l'expérience vécue en tant que telle, indépendamment de toute relation causale, expressive ou intentionnelle. Alors la thèse phénoménologique, que j'appelle très, très, très brièvement, hein, la thèse phénoménologique, est une thèse que Wittgenstein a partagée sous diverses formes entre, disons, 1929 et 1933. Et on pourrait dire que c'est justement contre elle qu'il a progressivement développé toute sa philosophie de la psychologie, notamment à partir de 1936 et jusque dans les années 46-49. Et le cœur de cette critique, c'est évidemment l'argument du langage privé, ce qui me conduit à ma quatrième remarque. L'argument du langage privé peut être lu comme principalement dirigé contre cette thèse de l'auto-identification des expériences et des sensations dans toutes ses variantes. Il me semble qu'on pourrait lire les paragraphes de l'argument du langage privé dans les recherches philosophiques comme un examen de toutes les variantes possibles de cette thèse. Ce que montre l'argument, c'est qu'il ne saurait y avoir d'identification du ressenti qui soit immanente à l'acte de ressentir ou qui résulte de la seule attention au ressentir. L'illusion des philosophes de la conscience, c'est de croire que l'identification des contenus pourrait s'opérer dans la sensation elle-même et qu'il suffirait de porter une attention particulière à l'expérience elle-même par une sorte de réflexivité immanente au sentir, par un sentir du sentir, en quelque sorte. Mais un geste mental comme celui-là n'opère aucune identification, c'est bien ce que défend Wittgenstein, c'est le non-sens de l'ostension privée, de cette cérémonie inutile au cours de laquelle nous prétendons identifier les qualités des contenus comme si, comme si elles étaient des objets. Je vais vite, évidemment, hein, il faudrait tout un exposé pour montrer ça. Il en résulte, et ce sera ma cinquième et dernière remarque, que si un débat utile doit avoir lieu, et je pense qu'il devrait avoir lieu, entre les philosophes de la conscience que j'ai cités et Wittgenstein, c'est sur la thèse de l'auto-identification des expériences qu'il devrait porter en premier lieu. Alors cela suppose que ceux qui voudraient faire usage de Wittgenstein dans le débat contemporain soient capables de deux choses qui ne sont pas évidentes. La première, c'est d'être en mesure de formuler une version de l'argument du langage privé qui soit au minimum recevable pour des philosophes comme Chalmers ou Papineau, ce qui, étant donné les cadres théoriques à l'intérieur desquels ces philosophes raisonnent, est loin d'être une affaire simple. Et deuxièmement, qu'ils soient en mesure de les rassurer, si je puis dire. C'est-à-dire de leur montrer qu'en abandonnant cette thèse, on est amené ni à nier que les sensations existent bel et bien, ni à nier qu'on puisse jusqu'à un certain point distinguer celles-ci par leur qualité phénoménale, ni à nier qu'on puisse les nommer ou les décrire dans des énoncés susceptibles d'être vrais ou faux. Mais, comme vous pouvez vous en douter, c'est certainement pas une tâche facile. Merci de votre longue attention.